Midi passé de quelques minutes, bonjour, c'est le magazine du Tarn, en direct à midi et rediffusé à 17h. Au micro c'est Jaco et à la réalisation de cette émission, mon compère Thomas pilote les manettes. Sixième journée du festival Musique sur Ciel, de cordes sur ciel, dédié aux musiques de chambre. Et avec nous en studio, la moitié d'un quatuor hors du commun, le quatuor Girard. Je suis en compagnie de Hugues et de Lucie. Bonjour.
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 Donc le quatuor c'est normalement Hugues et Agathe au violon, Odon violon alto et puis Lucie qui est avec nous au violoncelle.
Exactement.
C'est ça. Hein. Alors le quatuor Girard c'est quatre frères et sœurs, donc je dis c'est quand même hors du commun, donc la même fratrie. Vos papiers s'il vous plaît, en quelque sorte présentez-nous le quatuor Girard. À quel instrument vous jouez? Et vos frères et sœurs?
Moi, je suis premier violon. Je suis d'abord violoniste. Après ça, premier violon, bon, ça, c'est plus facultatif. Et puis Agathe, donc, est violoniste et donc joue le rôle du second violon. Et puis Odon à l'alto. Donc, c'est un instrument un peu plus grave, un peu plus en quelque sorte entre le violon et l'alto, qui fait une sorte de médiation entre la voix aiguë. Et puis la basse qui est pour Lucie, qui est la violoncelle.
Qui est la violoncelliste.
Voilà.
J'ai cru voir que vous jouez quand même des instruments particuliers, très anciens.
Oui, j'ai la chance de jouer un instrument très beau, qui est un instrument italien, napolitain, de 1735, fait par un grand luthier qui s'appelle Galliano, Nicola Galliano. C'est un instrument, bien sûr, que j'emprunte.
Oui.
Mais que voilà, que je ne peux pas pour l'instant m'offrir.
Ouais.
Mais voilà, j'espère un jour pouvoir m'en acheter un tout simplement.
Bon, on te le souhaite.
Mais voilà, c'est un instrument magnifique et puis j'ai eu la chance de jouer depuis 3 ans déjà. Et puis on découvre des tas de choses en jouant des instruments comme ça, en passant de l'instrument d'étude, on va dire. Qui permet juste d'apprendre, et puis cet instrument qui permet de vraiment rentrer dans la magie du son, dans le miracle de l'harmonie. Et puis en quatuor, c'est vraiment excellent. Et puis Agathe aussi joue un très bel instrument. C'est un instrument, je crois, c'est un instrument milanais, italien aussi. De à peu près de la même époque. C'est pas le même instrument, c'est un instrument plus, peut-être un peu plus intime que le mien, qui est très, très... très lumineux, très...
Ça, c'est pour le
voilà,
premier violon.
Voilà, ouais. Voilà, je trouve que ça correspond très bien à nos rôles distincts. Et, voilà. Et puis...
Un quatuor fraternel.
Ah oui, ben ça c'est une longue...
Bah, qui en a eu l'idée déjà?
C'est une longue histoire.
Allez, vas-y, on a le temps. en quelques mots.
Nos parents, pas vraiment. Disons que depuis tout petit, on
école de musique,
nous sommes, dans la musique, voilà, tout le temps, je ne dirais pas matin, midi et soir, mais presque. Mm. C'était vraiment, ça faisait partie de notre corpus éducatif.
Il faut dire que souvent les gens, quand ils voient justement qu'on est un quatuor constitué de frères et sœurs, souvent ils se disent, bon, en fait, c'est un projet des parents, et puis les enfants se sont contentés de faire ce que les parents voulaient. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, parce que bon, c'est vrai que maman... Et papa aimait beaucoup, beaucoup la musique. Et donc, quand ils ont eu des enfants, ils ont évidemment essayé de nous faire approcher la musique de la façon la plus sérieuse possible. Mais justement, elle raconte tout le temps que quand notre frère aîné a commencé le violon, quand ils ont acheté le violon, ils ont ouvert la boîte. Et donc, maman a vu le violon, l'archer. Et puis, en fait, ils ne savaient pas du tout comment ça marchait. Et en fait, comme il n'y avait pas de... Comme il n'y avait pas de colophane sur l'archer, donc cette colophane qui est la résine qu'on met sur l'écrin de l'archer pour que le son puisse se produire, comme il était neuf l'archer, il n'y avait pas de colophane. Donc quand elle posait l'archer sur les cordes, ça ne marchait pas. Donc elle se disait, mais alors en fait, comment ça marche un violon? Tout ça pour dire que nos parents ne connaissaient pratiquement rien. Ils connaissaient la musique, mais ils connaissaient pas...
Pas grand-chose.
Pas grand-chose du fonctionnement d'un instrument à cordes. Et donc en fait, les choses se sont faites vraiment très progressivement, et c'est vrai que on a eu la chance justement de pouvoir faire un petit peu tous des cordes, et c'est ça qui nous a appris du coup permis de faire du quatuor à cordes. Et je pense que maman nous a mis dans les cordes, parce que c'est vrai qu'au conservatoire d'Avignon les professeurs de cordes étaient assez réputés dans le conservatoire, et donc évidemment maman, qui aimait bien qu'on fasse les choses sérieusement, s'est dit voilà, je vais les mettre dans le département cordes. Et c'est comme ça qu'après, on a été dispatché un peu dans tous les instruments. Et c'est comme ça qu'après, nos parents nous ont amenés au concert. On a découvert le très grand répertoire pour musique de chambre. Et donc après, on s'est mis à rêver de pouvoir jouer ensemble pour faire comme au concert. Alors évidemment, au début, les premières années, on n'avait pas du tout le niveau. Et,
petit à petit.
Et donc voilà, souvent, on achetait les partitions et puis on était très tristes de se rendre compte qu'en fait, on n'avait pas encore le niveau. Quand on a pu jouer la musique de nuit...
Nous avions 8 ans, ça.
Voilà, quand on a pu jouer la petite musique de nuit, c'était un rêve absolu. Et puis voilà, petit à petit, les choses se sont ouvertes à nous. Et puis on s'est dit que de passer à côté du fait de pouvoir faire de la musique en famille, ça aurait été vraiment un grand gâchis. Donc c'est comme ça qu'on a tenu, nous, à accomplir ce rêve. Mais on n'a pas du tout, enfin, c'est pas du tout une pression des parents, ni un rêve, enfin, ni un projet prédéfini des parents. C'est quelque chose qui s'est fait.
Ça aurait été
trop lourd à porter.
Un peu fade.
Mais les autres frères et sœurs, parce qu'il y a d'autres frères et sœurs.
Oui, c'est vrai qu'on est une famille de 9 enfants.
À quand le septet le...
Alors évidemment, on fait peut-être. Pour le moment, on ne fait pas ça dans le cadre de festivals reconnus, on fait ça dans le cadre plus intime. Mais on a quand même fait un concert déjà en quintette avec notre frère altiste qui était avant dans le quatuor. On a un autre frère qui est lui aussi au conservatoire de Paris en violon. Donc, là, cette année, il passait le bac. Donc, le pauvre, il avait un emploi du temps extrêmement chargé, qui fait qu'on ne pouvait pas non plus encore le charger d'autres choses.
Aucun frère ou une sœur rocker ou...
Non, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, ça va venir, on ne sait pas.
Pratiquer de la musique déjà en groupe, ce n'est pas une chose évidente.
Non.
En famille, encore moins. Et de la musique classique qui demande beaucoup d'exigences, je suppose que c'est pas évident.
C'est sûr.
Mais comment vous faites?
C'est vrai qu'en plus, le quatuor à cordes, c'est, je pense, quelque chose de spécialement exigeant parce que, évidemment, on voit beaucoup de quatuors autour de nous. Et c'est évident que nous, on rencontre certaines difficultés parce que le quatuor, on est tout le temps ensemble. C'est, comme vous dites, une très grande exigence. Il faut travailler des heures par jour pour
arriver
essayer
à un résultat...
de progresser. Donc, il faut toujours tenir. Sinon, dès qu'on abandonne, on sent tout de suite la régression. Mais heureusement, on a le modèle des autres quatuors à côté et on sent bien qu'eux, ils ont les mêmes difficultés. Donc, ça nous permet de relativiser par rapport au fait qu'on est frères et sœurs. Et on se dit que... Mais c'est vrai que, c'est Odon qui disait ça hier, il disait que finalement, nous, notre démarche, elle est peut-être un petit peu à l'inverse des autres quatuors, parce que souvent, les quatuors, quand ils se constituent entre amis, et après, eux, ils doivent apprendre à avoir une relation presque un peu familiale. Alors que nous, c'est un petit peu l'inverse. Nous, on est frères et sœurs, et il faut qu'on apprenne à devenir vraiment amis, plus que frères et sœurs, où on a un lien charnel, mais il y a des frères et sœurs qui ne sont pas forcément amis, en fait. Il faut qu'on... Tous les jours, il faut d'abord un très grand respect, parce que c'est sûr que sinon, ça ne peut pas marcher. Et toujours chaque jour doit être nouveau finalement, parce que c'est vrai que sinon on peut très très vite prendre des mauvaises habitudes et
Pas y avoir de routine en fait.
C'est ça.
Qui est l'aîné parmi vous?
Là, c'est moi.
C'est toi l'aîné.
Non, je suis pas l'aîné de la fratrie, mais l'aîné.
Bon, dans le quatuor, donc c'est Lucie, ensuite
après il y a moi,
Hugues, ensuite
Odon et puis Agathe.
Et par exemple, pour les choix d'interprétation, est-ce que vous faites appel à des personnes extérieures pour vous conseiller sur vos choix d'interprétation?
En général, plutôt. Alors, en fait, pour l'instant, on est à un stade de notre carrière où on cherche encore à s'affronter à des concours internationaux. Vous savez, ces grandes compétitions qu'il y a à peu près dans le monde entier pour...
D'ailleurs, vous êtes lauréat de nombreux concours déjà.
Et puis, on essaye d'en faire d'autres. Donc, en général, il y a beaucoup de programmes qui sont déjà imposés, en quelque sorte. Donc, c'est comme... C'est comme un grand coureur, il va courir telle distance. Et puis voilà, nous, on a aussi ce challenge-là. Donc pour l'instant, en tant que répertoire, nous avons tous les mêmes aspirations, les mêmes buts. Donc,
hier, vous avez joué à l'église Saint-Michel, dans le cadre du grand concert du Festival Musique sur Ciel. Vous avez accompagné Jean-Claude Pentier, qui est un excellent pianiste. Donc vous avez interprété des œuvres de Schumann et de Fauré. Pareil que c'était génial. Sylvie a beaucoup adoré.
C'est
un immense plaisir.
Mais non, parce que c'est vrai que justement, je pense que le justement, être musicien, c'est beaucoup plus qu'un métier, en fait. C'est un métier, mais c'est beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que, enfin, bon, c'est vrai qu'il y a des métiers où on apprend aussi tous les jours. Mais quand on est musicien, en fait, il faut toujours être en recherche, parce que si on n'est pas en recherche, petit à petit, ça, comme une fleur un peu qui se fane. Donc, il faut toujours être à la recherche de quelque chose. Alors, ça peut être une recherche personnelle, mais c'est aussi extrêmement important dans cette musique d'aller chercher... Dans la tradition et d'aller chercher vers des gens qui sont plus anciens que nous. Et là, nous, justement, on sort d'une académie de 15 jours à Aix-en-Provence. On a eu de la chance de pouvoir, justement, jouer à des professeurs, en fait. Des gens qui, eux, ont joué à eux-mêmes, à d'autres générations. Et les choses se transmettent de génération en génération. Et donc, effectivement, on peut encore se considérer comme étudiant, finalement, parce que... On peut toujours apprendre, mais on se rend bien compte que voilà, qu'on est 15 ans ou 30 ans, finalement, il faut toujours avoir l'humilité de pouvoir se confronter
et de découvrir aussi
autre chose. Alors c'est vrai que des fois après, on peut avoir dans une même semaine deux professeurs qui vont des fois dire des choses contradictoires. Donc on se dit que finalement la musique dépasse l'interprète, mais en même temps c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que on peut avoir deux interprétations magnifiques et qui ne se rejoignent pas forcément et qui peuvent et ça c'est une très grande richesse. Et c'est vrai que de pouvoir jouer avec Jean-Claude Penthier, c'est on pourrait presque dire c'est encore un stade supérieur, dans le sens que c'est encore plus qu'une masterclass, c'est-à-dire que pouvoir être dans la musique avec quelqu'un qu'on peut effectivement considérer comme un maître, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager la scène avec lui.
En tout cas, aujourd'hui, cet après-midi à 17h30, dans le cadre du concert commenté, vous serez tout seul. Donc, quand je dis tout seul, c'est uniquement le Quatuor Girard. À 17h30 à l'église Saint-Michel, où ils vont interpréter des œuvres de Haydn et de Bartok. Mais pour l'heure, on va écouter une de vos interprétations de Schumann. Le premier Quatuor de Schumann, de Scherzo, qui veut dire amusement, tu m'as traduit tout à l'heure, interprété par le Quatuor Girard. Le premier Quatuor de Schumann, de Scherzo, l'amusement interprété par le Quatuor Girard, avec qui nous sommes en studio, dans les studios de CFM Accord sur Ciel. Donc je rappelle que la radio CFM est partenaire du Festival Musique sur Ciel, dont c'est la 43e édition, et le festival se poursuit jusqu'au 25 juillet. Donc une histoire de famille dans un festival, également qui tisse une trame historique comme ça, parce que cet après-midi à 17h30, le Quatuor Girard va interpréter une œuvre, un quatuor de Haydn. Et je me souviens déjà que lundi dernier, lors du Mozart en cavale, comme ils l'ont appelé, donc cette itinérance dans différents villages du Tarn, ils ont interprété des œuvres de Mozart que lui dédiait à Haydn. Et là, il paraît que cet opus 33 numéro 2 que vous interprétez cet après-midi, c'est l'un des opus qui a inspiré Mozart.
Exactement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, Mozart, c'est assez étonnant parce qu'en fait, Haydn, lui, a traversé une grande palette dans l'époque classique. Et en fait, Mozart est né après Haydn, mais il est mort avant. Et donc, quand Mozart a découvert Haydn en était encore... dans les premiers opus, dans ses premiers opus, et il y a une très très grande évolution dans l'équateur de Haydn. Donc Mozart a été très impressionné par justement l'opus 33 de Haydn, et c'est comme ça qu'il a dédié ses 6 quatuors à son maître, parce que voilà, oui, il a énormément appris de lui. Et Mozart, là justement, a ressenti une très grande difficulté à composer du quatuor à cordes, parce que Mozart s'est surpassé dans l'opéra. Et là, lui, il s'est rendu compte justement que le quatuor à cordes, c'est un genre musical extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans toute l'histoire de la musique classique, on peut dire, les compositeurs ont dû prouver qu'ils étaient des grands compositeurs en composant des quatuors. Et ça, de Haydn, qui est vraiment le père du quatuor à cordes, jusqu'à Bartok, et puis après aussi d'autres compositeurs qui ont composé après lui. Mais c'est vrai que chez Bartok, c'est l'un des derniers compositeurs qui a composé justement ce cycle de quatuors, comme Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann en a composé 3. Et donc il y a une grande continuité. Et donc Mozart, lui, a voulu essayer vraiment faire du mieux qu'il pouvait dans le genre du quatuor à cordes. Mais il a dit qu'il n'avait pas écrit avec de l'encre, mais avec son propre sang. Donc c'est pour montrer que... la difficulté que ça a représenté. Et après, Haydn lui-même a été très impressionné par les quatuors de Mozart et donc a continué à écrire. Et il a continué donc, à écrire alors que Mozart était cycle, lui-même déjà mort. Oui. Et après, il a composé donc, jusqu'aux opus 76 et les opus 77 après, mais qui n'ont pas été finis. Et l'opus 76, on a déjà un pied dans le romantisme. Et Beethoven lui-même, après, a été lui-même la génération suivante et a encore... pousser le genre du quatuor à cordes dans des sphères absolument incroyables. Et après Beethoven, justement, beaucoup de compositeurs se sont quand même arraché les cheveux, on peut dire, pour essayer de trouver une autre voie, parce que finalement, après les quatuors de Beethoven, Beethoven avait exploité d'une manière tellement forte ce genre que c'était quand même très difficile de trouver une autre voie après Beethoven. Et justement, Bartok, avec son langage à lui, très impressionné lui-même par les quatuors de Beethoven, a essayé de trouver sa voix et il l'a trouvée vraiment d'une manière très magistrale.
Tu vas ajouter quelque chose?
Oui, voilà, mais justement, c'est pour ça que c'est très intéressant, justement, dans ce programme où il y a Haydn, Bartok. Au premier abord, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement
qu'est-ce qu'ils font là, les deux? Oui.
Mais justement, il y a dans cette opposition, dans cette opposition-là, il se retrouve aussi dans cette capacité à avoir. Avoir innové, à avoir complètement révolutionné, trouvé un nouveau langage. Haydn lui-même, en inventant la cellule du quatuor, puisque finalement c'est le premier. Avant, il n'y a pas de quatuor, c'est la musique instrumentale de l'époque des Lumières qui a permis le quatuor. Et puis Bartok qui a inventé un nouveau langage, qui a inventé une nouvelle voix pour sortir de tout ce carcan qu'il y a eu tout
de suite. Donc
je trouve qu'il y a dans ces deux compositeurs, il y a quelque chose de très touchant et de très cousin en fait.
Donc Bartok, c'est pianiste et compositeur austro-hongrois, dont vous allez interpréter le quatuor numéro 4, l'un des plus importants, et il paraît l'un des plus complexes aussi à jouer.
Oui, c'est sûr.
Parce qu'à partir du 4, apparemment, il révolutionne vraiment la manière de jouer. J'ai pas retenu tous les
termes.
Oui,
mais c'est ça, justement. Parce qu'en plus, ce qui est assez extraordinaire chez Bartok, c'est que c'est à la fois très ancré dans le folklore, dans la musique folklorique, et en même temps, une musique extrêmement intellectuelle. Et c'est vrai que même justement, quand on essaye d'aller chercher chez des gens qui ont eux-mêmes joué, parce que bon, là, finalement, on peut encore trouver des gens qui ont eux-mêmes travaillé avec des musiciens qui ont connu Bartok, donc c'est pas très ancien, mais on se pose encore beaucoup de questions sur la musique de Bartok, parce que lui-même n'aimait pas trop s'exprimer sur ce qu'il voulait dire dans sa musique, et donc il y a encore beaucoup de mystères, mais on est à la fois dans quelque chose de très intellectuel et de très charnel.
Donc
et
juste un dernier mot sur Bartok, j'ai appris que c'est l'un des pionniers de l'ethnomusicologie, donc c'est l'un des premiers musiciens à avoir recensé les musiques populaires de son pays, la Hongrie et la Roumanie en compagnie de Kodály, donc qui est vraiment comment dire, il était vraiment l'un des premiers à vouloir recenser c'est comme oui. ça les musiques populaires.
Tout à fait. Mais en même temps, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Parce que, par exemple, pour parler d'Haydn, puisqu'on est dans Haydn, à l'époque d'Haydn, il y avait justement un folklore très, 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 très fort, même en Europe centrale, etc. Mais ce folklore était vivant. Et Haydn, lui, s'en inspirait beaucoup, comme Bartok. Mais il s'en inspirait comme quelque chose de vivant, quelque chose de naturel. Dans Bartok, lui, il a senti, contrairement à Haydn, il a senti un malaise vis-à-vis de ça. C'était à l'époque voilà, de la révolution industrielle, etc. Donc il y a tout ce contexte-là où tout ce qui était tout le folklore local et tout ça était en train de disparaître. Et ce qu'a voulu faire Bartok, c'est justement de pouvoir conserver ça, de pouvoir le remettre en valeur, etc. Donc il y a un peu la même fibre dans Haydn et Bartok de cette inspiration du folklore, mais dans Bartok, il y a aussi cette angoisse que ça pouvait disparaître.
On va se quitter, parce que le temps qui nous est imparti est déjà en train de passer. La prochaine fois, le Quatuor Gira, vous revenez pour 4 heures, parce qu'on a énormément de choses que l'on pourrait aborder. On va se quitter avec un titre de Haydn, mais avant qu'on se quitte, je rappelle la programmation du jour. Donc au moment où on enregistre, il y a du vent, en concert impromptu au Centre Social de Côte-Varot, donc le concert doit être en train de s'achever maintenant. À 17h30, le Quatuor Gira vous propose de venir découvrir Haydn et Bartok en Quatuor à l'église Saint-Michel. Et puis à 20h30, à l'église Saint-Michel toujours, Salomé Allaire, que nous avons reçu hier en compagnie de Nicolas Kruger, vont se produire accompagnés de Marion Ralincourt, Benoît Savin, Palbo Schatzmann, Gauthier Herman, donc ses flûtes, clarinettes, violon, violoncelle, pour reprendre des œuvres de Schoenberg et de Strauss. Nous arrivons au terme de l'émission. Je voulais juste vous poser une dernière question. Un album déjà paru, donc du Quatuor Gira. Quels sont vos projets à venir?
Notre projet, c'est un second album.
Second album, vous commencez déjà à y travailler.
Mais on commence à y travailler, mais pour l'instant, c'est pas encore très concret.
Des compositions à vous
ou... Non, peut-être pas des compositions. Un jour, peut-être qu'on pourra faire des créations. Oui. Ça, on aimerait pouvoir faire des créations.
Et quand vous ne jouez pas de la musique classique, vous jouez à quoi?
Nous,
c'est vrai que là,
on est quand même très spécialisé musique classique. On écoute autre chose, mais par contre, on joue que musique classique.
La question à laquelle tout le monde a droit, tous les musiciens classiciens qui passent, vous produisez depuis quelques temps en France et pas mal à l'étranger maintenant. Comment vous percevez l'accueil du public dans les différents pays, en France, à l'étranger?
Ah oui, mais ça c'est très, très, très intéressant comme question. On a joué un peu en Autriche, Allemagne, etc., où c'est un public très, très, pour le coup, là, l'éducation musicale est très, très forte, oui. etc. Donc là, c'est sûr que là, il y a toute une culture qui rend un public quand même très, très attentionné, mais en même temps très exigeant, ça, il faut dire. En France, c'est un public fantastique parce qu'il aime beaucoup la musique, mais il n'est pas trop exigeant.
C'est ouais.
Ça dépend qui, après.
Mais voilà, ouais. ça dépend où est-ce qu'on joue, etc. Bon. Et puis, on a joué au Maroc au printemps, et puis il y a 2 ans aussi. Là, c'est aussi autre chose, parce que le public marocain est très, très curieux, mais plus agité. Plus,
ouais.
Voilà, on continue à faire la fête pendant le concert. Tout
ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que le Quatuor Gira va élargir sa palette de musique. On va se quitter avec un morceau donc de Haydn. Et je rappelle que ce soir, en grand concert, c'est les œuvres de Schoenberg et de Strauss à l'église Saint-Michel par la soprano Salomé Allaire, Nicolas Kruger au piano et à la direction. Nous arrivons donc au terme de l'émission. Nous vous souhaitons bien des choses à tout le Quatuor. Bonne continuation à vous.
Tu fais un très grand plaisir.
Retrouvez cette émission comme toutes les précédentes en podcast sur le site internet de la radio www.cfmradio.fr. Merci Thomas à la technique. On se retrouve demain avec notamment l'accordéoniste Pascal Conté. Haydn pour se quitter. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Thank you.